Welcome back sur le podcast Demain, c'est reconversion. Donc la dernière fois, on était sur Open Classroom, sur l'épisode sur qu'est-ce qui s'est passé pendant mon alternance en entreprise, parce que j'ai fait un an d'alternance, et mon avis aussi sur la formation Open Classroom. Et là, on a un invité assez particulier, qui était en fait mon mentor chez Open Classroom. Du coup, Vincent, est-ce que tu peux te présenter?
Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Vincent Scourzic, j'ai 45 ans, deux enfants, je suis basé sur Toulouse et voilà, originaire du Gers, pas très loin. C'est important.
Et du coup, est-ce que tu as réfléchi à la fameuse question, si tu te présentais en trois mots, ce serait lesquels?
Ouais, j'ai pas mal cogité à tout ça. Alors, je voulais pas prendre les mots dont on va parler après, de formateurs, de choses comme ça. Je me suis dit, j'allais reprendre un peu des outils qu'on utilise en bilan de compétences, qui s'appellent les figures du destin, à se dire que je suis à la fois un sage, donc quelqu'un qui va donner plus des conseils, aider les gens à progresser dans la réflexion, etc. Je suis aussi un capitaine qui est un bon adjoint, quoi, qui coordonne les projets, qui assiste bien. Et puis, j'ai un petit côté artiste aussi, autant dans la créativité que dans le souci esthétique. Donc voilà, sage, capitaine et artiste.
Ok, bah c'est super intéressant, c'est la première fois qu'on me les sort, celle-là.
Ça change.
Yeah. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, bon là c'est un peu pour l'introduction, mais ton parcours, comment t'en es arrivé là, où est-ce que t'en es d'ailleurs aujourd'hui?
Ouais. Oui, alors le parcours, bon, j'ai fait un bac scientifique et ensuite j'ai intégré donc une école d'ingénieurs avec prépa intégrée en 5 ans que tu connais bien, l'INSA, parce que je crois que tu as fait la même chose.
J'ai
Alors
fait
moi
la
j'ai
prépa intégrée, mais ouais, j'ai fait
OK.
l'INSA.
Bon, moi j'ai eu un peu plus de chance parce que c'était celui de Toulouse, donc c'est sympa. Et alors pour le coup, j'ai fait là-bas une spécialisation en biochimie alimentaire, donc finalement pas très, enfin assez éloigné de la formation. Mais en fait, j'ai trouvé mon premier poste sur Dijon, là, dans un centre de recherche et développement alimentaire, où on m'a demandé, entre autres, de mettre en place des formations continues pour les industries alimentaires. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans, ça m'a bien plu. J'ai fait un bilan de compétences pour savoir s'il fallait que j'aille justement dans le côté formation ou s'il fallait que je reste dans le domaine alimentaire. Et finalement, ben, c'est le côté formation qui est ressorti. Donc là, j'ai postulé, je suis devenu responsable formation, responsable pédagogique pour les Compagnons du Devoir, donc organisme de formation là, nationale sur les métiers manuels, du bâtiment, de l'industrie, etc. Donc d'abord sur la Bourgogne-Franche-Comté, puis ensuite je suis redevenu dans mon sud-ouest, donc surtout Midi-Pyrénées et puis surtout l'Occitanie. Et puis pareil, au bout de 10 ans, fin de mon cycle, deuxième bilan de compétences. Et là, ce qui est ressorti, ben, c'est que finalement, maintenant, c'était moi qui pouvais faire des bilans de compétences aux autres, finalement. Donc c'était une sorte de conseil en gestion des compétences aussi, hein, finalement, et en formation. Donc voilà, maintenant, je fais du bilan de compétences, mais je fais aussi du conseil en pédagogie, de la formation à distance, de la formation de formateurs. Enfin, je garde un pied quand même dans l'univers de la formation.
Ok, bah, très clair. Et du coup, une petite question, parce que moi, j'ai jamais fait de réel bilan de compétences. Est-ce que c'est vraiment le bilan de compétences où tu t'es dit, ah oui, en fait, je vais être formateur? Ou c'est d'autres expériences qui t'ont amené à ça? Ou enfin, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ah oui, c'est ça?
Ouais, c'est vraiment les réflexions pendant le bilan de compétences, parce que ça te fait prendre vraiment de la hauteur et du recul par rapport à ce que tu as déjà fait au préalable, donc vraiment ce que tu as développé comme compétences, plus transversales, parce que finalement on s'arrête souvent sur les compétences techniques, hein, et là justement quand j'ai fait mon premier bilan de compétences, ce qui est ressorti c'était toutes les compétences transverses que j'avais développées en termes de communication, d'organisation, de relationnel, etc. Et ça m'a vraiment encouragé à changer de voie, parce qu'au début, je ne me sentais pas légitime de travailler dans le domaine de la formation, parce que j'étais issu d'une formation technique scientifique, quoi. Et en fait, c'est le bilan de compétences qui m'a fait réaliser que j'avais développé de nouvelles compétences que je pouvais valoriser comme ça dans un autre domaine. Et ça a super marché, quoi. Et le deuxième bilan de compétences, ben c'est pareil. Initialement, je voulais rester dans la formation, mais dans des grandes entreprises. Et puis finalement, avec les réflexions, on s'est rendu compte que c'était pas forcément ma tasse de thé ou mon caractère, et que j'étais plus dans le conseil, le fameux sage qu'on a vu au début. Et c'est là, en creusant, ben, on a étudié des pistes que j'avais jamais envisagées et finalement qui ont abouti et puis qui se passent super bien, quoi. Donc ouais, ça te fait prendre un peu de hauteur et envisager des perspectives que tu n'aurais pas imaginées, en fait.
Ok, ça fait un peu de pub aussi.
Oui. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux.
Non, pas là.
Ok.
Et du coup, on n'a pas évoqué ce que tu... Alors, évidemment, t'as plusieurs activités, mais c'est quoi ton activité actuelle, justement, comment t'es arrivé dans le mentorat chez Open Classroom?
Ben c'est ça, donc à l'issue de mon bilan de compétences, quand la conclusion est ressortie que ben je voulais faire moi-même des bilans de compétences, que pour cela il fallait forcément que je sois à mon compte indépendant, parce qu'il y avait quand même plus de postes en tant qu'indépendant qu'en tant que salarié, et que du coup en tant qu'indépendant, il faut quand même aussi que tu diversifies tes activités, tu ne peux pas travailler pour un seul client et faire que du bilan de compétences. C'est là où j'ai essayé de chercher comment diversifier ça. Et en fait, je suis tombé un peu par hasard sur Open Classroom. En fait, à la base, je les avais trouvés quand je cherchais une formation, justement pour être consultant en bilan de compétences. Ils faisaient une formation de conseiller en évolution professionnelle. Et bon, au final, je n'ai pas pu suivre la formation, mais j'ai vu cette notion de mentorat. Et en fait, ça m'a bien plu. J'ai vu que ça pouvait être accessible avec l'expérience que j'avais sur le parcours responsable pédagogique là, que tu as suivi. Et c'est comme ça, voilà, un peu par hasard, que j'ai creusé le truc, que j'ai été pris, embauché, et puis que j'ai commencé cet accompagnement-là. Et pour moi, c'était aussi du conseil et de l'accompagnement, mais sous un autre format que les bilans de compétences. Donc c'était toujours une expérience bonne à prendre, quoi.
Ok. Et d'ailleurs, pour rentrer justement en tant que mentor chez Open Classroom, qu'est-ce qu'il faut des choses particulières de l'expérience?
Oui, c'est surtout ça, l'expérience dans la thématique qu'on mentore. Et après, voilà, de la dispo, un statut qui permet de facturer ses prestations. Et bon, voilà, je pense être à l'aise quand même avec les outils digitaux aussi, parce que c'est que de la visio, que du travail à distance. Donc il faut quand même être à l'aise avec ça.
Oui, c'est vrai que chez Open Classroom, on ne l'a pas dit, mais c'est totalement. Il l'avait bien compris bien avant tout le monde. Donc, la
Ouais.
visio, ça marche bien et c'est du 100%.
C'est ça, ils ne sont pas restés que sur les cours en ligne, ils ont vraiment ajouté cette dimension de mentorat qui apporte vraiment une valeur ajoutée en fait à la formation.
Et du coup, donc là, on a vu ce qui te plaisait dans cette activité et qu'est-ce qui te plairait moins, justement, s'il y a des choses qui te plaisent moins.
Alors, ce qui me plaît aussi, juste pour compléter avec ça, c'est vrai que donc pour moi, c'est de l'accompagnement. Et c'est vrai que je n'avais pas réalisé qu'on pouvait créer du lien finalement autant qu'en présentiel. On a souvent tendance à dire qu'en distanciel, bon, c'est pas facile d'échanger, de discuter, etc. Et finalement, si, moi je trouve qu'avec tous les étudiants que j'ai eus, parce que finalement, on se suit pendant un moment, hein, c'est minimum 6-8 mois, nous c'était un an. Enfin bon, il faut que les gens s'imaginent, pendant un an, on se voit toutes les semaines, quoi, quand même. Donc, je sais pas si ta copine était jalouse, peut-être pas à ce point-là, quand même. Mais tout ça pour dire, c'est quand même hyper régulier comme rencontre. Et puis, ben voilà, c'est vrai qu'on vient à discuter un peu de la formation et de plein d'autres choses à côté. Donc, on arrive quand même à créer du lien avec un accompagnement à distance, comme ça. Et ça, c'est vrai que je l'avais pas forcément réalisé. Et je trouve que c'est assez positif. Et justement, le côté négatif, c'est pour moi, je trouve que c'est vraiment sur la fin, en fait. Quand ça se termine, c'est un peu particulier le process. C'est que je te prépare à la soutenance du dernier projet. Tu passes la soutenance tout seul. Et puis l'évaluateur, bon, te valide le projet. Et ensuite, ben, ta formation est terminée. Tu disparais de mon tableau de bord. Enfin, le cordon est coupé. Ouais, donc c'est vrai que du jour au lendemain, ça fait un peu bizarre que ça s'arrête après avoir vécu ça pendant plusieurs mois. Donc c'est ça, je trouve, qui est un peu frustrant des fois sur la fin. Donc bon, heureusement, des fois, on reste en contact comme ça. Pour amorcer une transition plus douce. Mais ouais, la fête est assez brutale, je trouve.
Effectivement, bah, du côté étudiant, c'est un peu la même chose où ouais, tu te dis, t'as ton mentor. Bah, moi aussi, j'ai vécu une relation avec toi, on peut le dire, hein.
C'est ça.
Tous les vendredis matin, j'avais le rendez-vous
Ouais.
avec Vincent.
C'est
Et
ça.
c'est vrai qu'à la fin, ouais, enfin, un peu, bon, on a gardé le lien, mais c'est un peu, ciao, je t'ai préparé pour le projet.
C'est ça.
C'est particulier, ouais. C'est ça qui te plaît moins. Okay. Alors j'avais une grande question, je me suis toujours posée, je crois que je ne t'avais pas demandé. Est-ce qu'en tant que mentor, tu dois avoir fait le parcours ingénieur responsable pédagogique. Est-ce que tu as dû réaliser des livrables ou non, tu es vraiment là avec ton expérience professionnelle?
Alors, il ne demande pas expressément à avoir réalisé tout le parcours. Après, je pense que ça dépend un peu du caractère de chacun. Moi, je sais que bah, du coup, je me suis forcé à regarder tous les projets, à regarder tous les cours aussi, parce que ça prend du temps aussi de visionner tous les cours là. Mais c'est quand même, ça reste hyper intéressant. Puis on apprend aussi des choses en tant que mentor. Après, par contre, c'est vrai que j'ai pas réalisé les livrables. Parce que là, pour le coup, ça prend encore du temps. Et voilà, en regardant les livrables des étudiants, je voyais bien comment ça se présentait. Mais voilà, j'ai fait tout le reste, mais je ne les ai pas réalisés moi-même.
Ça marche. Et bon, la question n'est pas du tout pour te piéger, hein, c'est juste pour savoir. Et du
Ouais.
coup, est-ce que c'est pas compliqué justement de gérer, parce que tu as plusieurs élèves qui sont à différents stades du projet 1, 2, parce qu'il y a 8 projets quand même. Est-ce que c'est pas trop dur des fois de passer un peu du projet 2 au projet 8, au projet 7, etc.
Ouais. Alors c'est vrai que là j'avais eu la chance avec les différents étudiants du BAHU là, dont tu es issu aussi, où à chaque fois j'avais trois étudiants qui démarraient en même temps, qui finissaient en même temps, donc eux pour le coup ils étaient à peu près au même niveau, donc ça c'était pas mal. Mais c'est vrai que là depuis j'ai commencé avec de nouveaux étudiants qui n'ont pas démarré au même moment, qui sont pas non plus sur la même durée totale de formation, donc ils vont aller plus ou moins vite sur les projets. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de jongler sur tout ça. Bon, après, ça fait un petit moment, ça va faire 2 ans là, cet automne que je fais ça, donc je commence à connaître bien les projets, les livrables. Donc, et puis on note bien d'une semaine sur l'autre les éléments sur lesquels on doit travailler. Donc ça, non, ça se passe assez bien. C'est assez clair, mais c'est vrai qu'il faut maîtriser le sujet, ouais.
Du coup, ça fait la transition avec ma question. Comment tu prépares justement des séances de mentorat en fonction des différents étudiants? Est-ce que tu as le temps de préparer?
Je regarde surtout ce qui a été fait la fois d'avant, les livrables justement sur lesquels on doit travailler ou les cours qu'ils doivent regarder. Et voilà, j'essaie de voir un petit peu les notions principales qui seraient importantes d'aborder. Après, voilà, ça c'est un truc que je fais juste avant la session. Hein. J'y passe pas 1 heure dessus ou quoi, c'est 10 minutes avant, je me pose, je fais le point sur tout ça et puis on enchaîne quoi.
Ah, j'imagine que t'es pas payé pour ça.
Non,
Enfin,
non, non. Ouais, non, non. Ou alors si, mais c'est intégré dans le coût de la session, donc ça revient au même, quoi. C'est ça.
Ok. Et d'ailleurs, combien tu gères justement d'élèves en même temps, parce que tu as plusieurs activités dans Open Classroom?
Là, ces derniers mois, j'étais sur 6 élèves, voire 7 des fois en parallèle. Là, donc, il y en a pas mal de la promo qui ont terminé. Donc là, je suis à 4 au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, l'objectif, c'est d'être autour de 5-6, quoi. Et que j'arrive à condenser ça sur une grosse matinée pour assurer toutes les visions.
D'accord.
Mais après, c'est vraiment le choix de chaque mentor selon ses dispos. Ça, c'est comme on veut. Et en fonction aussi de la demande, quoi. Parce que moi, j'ai encore une ou deux places disponibles et ben, tu vois, j'attends qu'on m'affecte des étudiants, en fait.
D'accord, parce qu'effectivement, je m'étais renseigné pour potentiellement plus tard devenir mentor, pourquoi pas. Et en fait, j'avais regardé les offres et je crois qu'il y a, alors les développeurs, ça, il y a toujours de la demande de mentor. Mais je crois
Ouais.
qu'ingénieur responsable pédagogique, quand j'ai regardé, il n'y avait pas spécialement de demande.
Alors c'est vrai que moi quand j'ai intégré, ils recrutaient pas mal. Hein, et donc c'était en septembre-octobre 2020 là. Et c'est vrai que je crois qu'ils recrutaient 1 000 mentors sur tous les parcours mélangés. Donc là, il y avait eu énormément de recrutement à cette période-là. Et c'est vrai que depuis, il y en avait moins selon les parcours. Et donc effectivement, soit il faut regarder les offres pour voir s'il y a des besoins de mentors sur un parcours spécifique qui apparaît, soit apparemment on peut aussi faire une candidature spontanée et puis eux recontactent s'ils se rendent compte qu'il y a des besoins de mentors sur le parcours cité. Après c'est vrai que l'objectif c'est pas non plus de recruter des mentors à tour de bras et puis de pas pouvoir leur fournir le nombre d'étudiants qu'ils souhaitent quoi, parce que chacun donne un volume d'étudiants qu'il peut absorber. Et donc, bon, l'objectif, c'est d'arriver à satisfaire un peu tout le monde. Donc, c'est tout un exercice qui n'est pas simple à gérer.
Ok, non mais c'est clair. Peut-être qu'un jour que je
Ouais.
postulerai, on verra.
Bah
Et
oui.
justement, au bout de 2 ans, est-ce que je sais pas comment poser ma question, tu t'ennuies pas d'avoir toujours les mêmes projets, même si tu as des élèves différents, est-ce que
Non, pas encore. Alors, franchement, j'ai appris pas mal de choses quand même, hein. Autant en suivant les cours que les projets. Enfin, tu vois, finalement, j'étais agréablement surpris parce que j'ai appris des choses sur la veille, sur les mises en forme de diaporama. Enfin, ça paraît bête, mais c'est plein de petites infos que tu vas piocher à droite à gauche ou des choses que tu vas consolider. Et donc ouais, j'ai appris beaucoup de choses et là on a encore des mises à jour de projets, donc bon, ça change encore régulièrement les projets, donc c'est pas forcément toujours la même chose. Non, c'est vrai que pour l'instant je m'ennuie pas, mais voilà, on va voir combien de temps je vais faire ça, mais pour l'instant ça me convient bien. C'est intéressant parce que ça reste vraiment un complément d'activité assez flexible, quoi, finalement. Tu vois, tu choisis le nombre d'étudiants que tu peux suivre, donc ça veut dire le nombre d'heures que tu peux consacrer chaque semaine. Les sessions de visio, tu peux les caler quand tu veux en fonction de la dispo des apprenants. Donc, bon, vous, il y avait des jours de formation imposés, mais les autres, je peux faire ça entre midi et deux, le soir, le week-end, enfin quand je veux, quand ils veulent aussi. Donc, tu vois, ça reste assez souple et assez complémentaire d'une activité. Donc non, pour l'instant, ça me convient bien.
T'as l'avantage d'être indépendant justement avec Open Classroom, quoi.
C'est ça, complètement.
Et du coup, en parlant d'indépendance, est-ce qu'on peut parler de la fameuse question du pognon? Combien
Oh
ça coûte le classroom?
là là, ben je paye l'ISF maintenant. Non, non, non. Oui, on peut en parler, c'est public, hein, de toute façon. Je pense que vous pouvez les trouver sur le site d'Open Classroom. Alors, il y a c'est des taux. Enfin, un montant par session, donc sachant que les sessions en général c'est 45 minutes. Alors il y a trois montants en fonction un peu du niveau ou de la difficulté des formations. Alors je connais plus les deux autres. Moi je suis à 35 euros par session. Donc après tu peux ramener au volume à l'heure. Enfin bon, après tu peux faire tous tes calculs.
Pour avoir une idée.
Ouais, non, mais voilà. Bon, en gros, tu pars sur 35 euros. Pour les 45 minutes, sachant que, tu vois, avec un peu de travail avant et puis un peu de travail après, parce que je dois quand même rédiger les comptes rendus de chaque session, voilà, moi, je suis parti sur 1 heure, quoi, grosso modo. Donc, 35 euros net. Donc, après, en fonction de ton statut, voilà, tu factures la TVA ou pas. Enfin, bon, c'est tout un. Ça, c'est tous les aspects comptables. Mais voilà, alors. C'est vrai qu'il y a plein de mentors qui se plaignent du tarif, qui devrait être réévalué. On aimerait bien qu'il soit réévalué régulièrement, ce qui n'a pas été le cas depuis un moment. Bon, ben voilà, après, il faut le savoir, c'est les conditions. Tous les mentors sont au même niveau. À part, je te dis, ces histoires de formation plus ou moins complexes, mais ça doit être, je sais pas, 30, 35 ou 40 ou un truc comme ça. En fait, ça reste dans le même.
Oui, ça dépend. Bah d'ailleurs, quand on paye, parce que moi j'ai payé la formation développeur, tu as des prix qui sont différents en fonction des parcours, donc j'imagine que c'est
Ouais,
directement.
c'est ça. Il y a trois niveaux en fait selon les parcours. Mais voilà, la majorité, on est à 35 euros par session.
Parce que c'est vrai que ce qu'on paye en tant que. Pour avoir payé, parce qu'en alternant, je ne l'ai pas payé, mais en développeur, je l'ai payé, et effectivement, ce qu'on paye en fait majoritairement, c'est le mentor. Et plein d'autres choses, mais
Oui,
sur
oui. Ouais.
le plus gros coût d'une des formations.
Donc voilà, donc quand tu es indépendant, une prestation en 35 euros de l'heure, bon, c'est pas extraordinaire, hein. Quand on fait de la formation, on peut être, je sais pas, entre 50 et 100 euros de l'heure, voire beaucoup plus. Donc, bon.
C'est pour le plaisir de transmettre.
Ouais. Et puis, ça reste quand même une activité assez récurrente, quoi. Enfin, même un formateur indépendant qui intervient droite à gauche, ben, il sait qu'il a ses étudiants qui tombent tous les mois, et ça, au moins, il est sûr d'avoir un volume qui tombe régulièrement, quoi. Donc voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients.
Ça paraît juste. Et t'as dit justement, souvent c'est 45 minutes les sessions, parce que c'est pas toujours 45 minutes.
Alors officiellement, donc c'est 45 minutes. On a des étudiants qui sont à 30 minutes. Alors je ne saurais plus, ils ont un statut particulier, mais je ne sais plus lesquels c'est. Si c'est
C'est pas
financé,
alors
c'est
justement c'est
autofinancé, non, justement?
ouais justement j'ai fait un
Ouais,
parcours
c'est ça.
autofinancé, c'était 30 minutes
C'est ça.
et du coup c'est lié à ma question de est-ce que 30 minutes c'est suffisant ou 45 minutes c'est suffisant?
Alors, bon, moi je pense que les 45 minutes qu'on faisait ensemble, comme ça avait l'air suffisant parce que, bah, au final, tu as réussi à tout faire, à tout valider, etc. Après, c'est vrai que tu avais eu un parcours en amont où tu avais quand même une expérience et des connaissances. Voilà. Par défaut, moi, ça suffit avec l'ensemble des étudiants. Après, c'est vrai que de toute façon, tu pourrais toujours faire beaucoup plus ou beaucoup moins. Mais toi, j'ai certains étudiants, voilà, on part sur 45 minutes. Ben, au bout de 30, 35 minutes, ils n'ont plus rien à dire ou à demander. Donc on arrête là, quoi. Donc voilà, tu pourrais toujours faire plus, mais bon, pour ce qui est demandé, ça suffit.
Okay, du coup, ça revient un peu à ton côté capitaine, parce que ça fait, tu coordonnes vachement des projets, même si c'est pas les tiens. Tu coordonnes
Ouais.
les projets de chaque étudiant.
C'est ça. Et mon boulot, c'est aussi de vérifier qu'on ne prend pas de retard par rapport à un planning prévisionnel. C'est ce qu'on vous demande au tout début du projet, de faire un planning prévisionnel en fait avec les dates auxquelles vous devrez terminer chaque projet. Et donc moi, je vérifie que justement, on ne prend pas trop de retard. Je note l'avancement de chaque projet sur mon compte rendu, histoire que d'être sûr qu'à la fin, vous ayez tout bouclé en temps et en heure,
Je confirme.
quoi.
François aime beaucoup les deadlines.
Je
Très
rigole
très
pas
bien.
avec ça.
Très très bien, franchement.
Ouais.
Le capitaine. Et du coup, j'ai une dernière
Yes.
question sur le côté un peu open classroom. C'est est-ce que toi, tu as des élèves en alternance et des élèves plutôt en formation continue ou pas?
Ouais, bah alors du coup en alternance j'avais donc ceux des promos des Bahus là.
Ouais.
Que tu connais, dont tu as parlé. Et là, je viens de démarrer avec deux profils. Donc, une personne qui est demandeur d'emploi, donc qui est disponible à temps plein, qui va faire la formation sur 8 mois, je crois, de mémoire. Et une personne qui travaille, qui a un poste à côté et qui se fait financer ça par son organisme de formation, son OPCO, et qui fait ça, du coup, en plus de son boulot. Et qui,
D'accord.
pour le coup, c'est elle qui se libère du temps, elle n'a pas forcément d'heures dédiées à ça, quoi. C'est elle qui s'organise.
Ah, je vois. Et du coup, ma dernière question sur ça. C'est justement, est-ce que si tu as des élèves en alternance et en temps normal, formation continue, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence de vitesse d'apprentissage entre ces deux types d'étudiants?
Oui, mais ça dépend aussi du niveau initial, en fait. Tu vois, on a beaucoup justement de demandeurs d'emploi qui se lancent là-dedans. Et soit ils ont déjà beaucoup d'expérience dans la formation, c'est souvent des anciens formateurs et on leur apporte plus le côté coordination pédagogique. Soit ce sont des personnes qui n'ont pas trop d'expérience et qui démarrent vraiment de loin. Et c'est vrai que sur le côté alternance, alors ces personnes-là peuvent être justement seules dans leur coin, quoi. Enfin, donc elles ont plus de mal à mettre en pratique. Et ceux qui sont en alternance, en général, ont soit déjà une formation initiale, un peu comme le bootcamp là, que vous aviez fait, soit elles peuvent mettre en pratique tous les jours, échanger avec des collègues, etc. Donc c'est sûr qu'elles assimilent en général plus facilement car c'est plus concret, quoi, ces notions-là. Donc ça dépend beaucoup, ouais, du profil initial de la personne.
Ah, puis j'imagine aussi qu'en alternance, nous on avait plus le temps, enfin plus le temps. Travailler en entreprise, mais c'était plus étalé, alors que quand 12 mois, alors que là tu es plutôt sur 8 mois, du coup tu dois être
Ouais.
plutôt à fond là-dedans, ça, enfin, je sais pas, ça, en tant
Ouais,
qu'étudiant, ça doit être
c'est sûr, t'as plus de temps d'assimiler quand tu étales un petit peu, ouais.
Ok, et non, j'ai oublié une dernière question importante. Toi, en tant que mentor, quel est ton avis sur la pédagogie des parcours Open Classroom, de manière générale, sur les cours, les projets?
Alors du coup, je trouve intéressant cette approche-là de formation mixte, de mentorat, donc de mettre les cours à disposition. Alors ce qui est sympa, c'est que les cours donc sont à disposition gratuitement de tout le monde, hein. Donc n'importe qui peut aller consulter les cours comme ça. Et après, c'est vraiment l'accompagnement par le mentor qui est payant pour valider les projets, pour valider la formation. Donc cette approche-là de formation, de pédagogie par le projet, c'est intéressant et avec le mentor aussi, parce qu'on est vraiment sur une formation sur mesure, en fait. Tu vois, c'est un prof, un élève, quoi, grosso modo. Donc c'est un peu le luxe. Et en même temps, c'est hyper individualisé pour le coup. Donc c'est intéressant. Après, c'est vrai que c'est quand même une formation qui est assez courte. Bon, même si ça dure 6 mois, 1 an. Voilà, c'est vraiment une initiation sur toutes ces notions-là. Après, vraiment, pour les consolider, les acquérir, il faut vraiment avoir une expérience dedans. Et puis. Se prendre quelques années d'expérience pour consolider tout ça, quoi.
Je complète ton propos, puisque autant ingénieur responsable pédagogique, j'avais déjà fait le BAHU, j'étais en alternance, donc facile. Autant développeur, où je l'ai fait tout seul, autofinancé, et pas d'expérience à côté, bah tu vois que c'est quand même plus dur d'assimiler les apprentissages, enfin clairement.
Ouais. Ouais, ouais, c'est normal. Ouais.
C'est extrêmement technique.
Ouais.
C'est dur. Ok. J'ai des questions un peu plus globales sur toi, comment tu te formes de manière générale sur ton métier de formateur, sur éventuellement Open Classroom, comment toi tu te formes et sur quels outils?
J'ai suivi les cours Open Classroom, là, où je te dis, j'ai appris aussi des choses intéressantes que je m'en pratique aussi aujourd'hui. J'ai eu ma période MOOC aussi, où voilà, j'ai découvert ça il y a quelques années. Et puis, sur la période où j'étais en reconversion, j'en ai bouffé pas mal. J'avais envie de tout faire, de tout découvrir. Donc là, j'allais sur les plateformes de MOOC classiques, hein, donc ou Open Classroom, ou FunMOOC, ou différents MOOC bien précis. Voilà, c'est surtout ça, c'est plus de l'auto-formation en ligne. Je fais du coup beaucoup de veille depuis le projet sur la veille là, d'Open Classroom. Donc j'ai automatisé ça aussi. Et donc je me suis spécialisé un peu justement sur la veille, sur les outils d'animation pédagogique, justement les outils numériques. Donc ça aussi, dès qu'il y a des choses qui m'intéressent, je creuse et puis je me forme moi-même là-dessus. Et voilà, puis de temps en temps, je fais des formations payantes sur c'est plus sur des compétences techniques liées au bilan compétences ou à différentes notions. Mais ouais, je suis assez avide de formation quand même. J'aime bien apprendre de nouvelles choses assez variées.
Ça ne m'étonne pas en tant que mentor ingénieur responsable pédagogique, pour le coup.
C'est ça, ouais. Et donc beaucoup de manière autonome ou à distance, hein, principalement.
Ouais, puis en plus, j'imagine que les élèves t'apprennent aussi vachement de trucs sur des, je sais pas, des nouveaux outils, enfin sur
Ouais,
plein de choses.
ouais, ouais.
Par exemple, je pense au projet numéro 3 où tu améliores une séance de présentiel, donc directement lié à ton métier de formateur.
Ouais.
Et je pense qu'il y a des gens qui ont des approches différentes sur plein de choses et ça doit être assez riche pour toi qui est. Moi j'étais un peu jaloux de ça en me disant ouais, putain, Vincent, et en fait il voit tous les élèves, tous leurs projets, et peut piocher dedans, dire ouais, ça c'est cool.
Ouais, exactement. Et c'est vrai qu'on voit de tout, hein. Dans les projets, il y a des choses qui sont hyper, hyper travaillées. Et c'est sympa, ouais.
J'ai une
Mais
dernière.
tu t'en es bien sorti.
Merci.
Ouais.
Ça va alors. D'ailleurs, j'ai toujours pas eu, je crois, ma validation de parcours, mais oh, j'en revois un petit mail.
Ouais, je pense qu'il faut attendre un petit peu. Ça a dû être validé dans le jury final, officiel. T'as pas reçu un mail là-dessus? Parce qu'il y a un de tes
Non.
collègues qui l'a reçu. Donc
Ouais,
c'était validé devant le jury, mais après il faut recevoir le diplôme papier
oui, bon,
dans les semaines qui suivent.
ça marche. Je vais terminer avec une question. Toi, est-ce que tu as des conseils pour des personnes qui justement souhaitent se lancer dans cette formation ingénieur responsable pédagogique? Pas en tant que mentor, mais en tant qu'étudiant.
Oui, je pense qu'il faut déjà. Enfin bon, la formation c'est sympa, mais il faut quand même arriver à cibler l'objectif final, quoi. Faut déjà réfléchir, c'est qu'est-ce que je veux faire comme métier, dans quoi je veux travailler, et ensuite définir la formation la plus adaptée. Donc voilà, faut pas dire je veux faire une formation responsable pédagogique parce qu'elle a l'air sympa, etc. Si c'est pas pour la mettre en œuvre derrière, ou si c'est pour la mettre en œuvre dans un métier qui correspond pas du tout à cette formation-là. Donc c'est vrai que c'est bien identifier quels sont pour cette formation-là les débouchés possibles. Parce que c'est vrai que on a plein d'intitulés entre responsable pédagogique, responsable formation, coordinateur pédagogique ou juste ingénieur pédagogique. Enfin, bon, y a un peu tous les intitulés avec des tâches différentes derrière. Donc bien arriver à identifier concrètement ce qu'on veut faire et voir si cette formation peut y répondre. Parce que certains veulent travailler que dans le distanciel, par exemple, hein, le digital learning. Alors que là, Open Classroom, c'est plus une formation généraliste sur la pédagogie. Donc c'est peut-être pas forcément la plus adaptée. Ou alors elle sera complémentaire à une autre formation plus spécifique. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment définir quel poste on veut avoir à la fin et quelle est la formation la plus adaptée pour y arriver.
Très clair, on sent la personne qui fait des millions de compétences. Non,
C'est
mais
vrai.
vraiment, t'as totalement raison parce que, en plus, ingénieur responsable pédagogique, c'est assez c'est varié, quoi. On peut dire ça comme ça.
Mais c'est
Il y a
ça.
plein de choses avec ça, du coup.
Ouais. Moi, tu vois, j'avais le titre de responsable formation, mais j'avais plein de collègues dans toutes les régions de France, là, chez les compagnons, et on avait tous des missions différentes, quoi. Certains faisaient la coordination pédagogique, donc de l'ingénierie pédagogique, donc de l'ingénierie de formation. Enfin, c'est hyper varié, quoi. Moi, je m'étais spécialisé dans les formations à distance, digitales aussi, alors que d'autres n'en ont jamais fait. Et c'est pour ça, les gens, il faut qu'ils se posent la question et qu'ils regardent même les offres d'emploi. C'est s'ils veulent répondre à une offre d'emploi, regarder quelles sont les compétences recherchées, s'il y a du digital ou pas, par exemple, et voir quelles sont les formations qui leur permettrait d'y répondre.
Très clair. un grand sujet. On pourrait faire un épisode sur les bilans de compétences. Parce que...
Ah, il y a de quoi dire.
Et du coup, Vincent, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Est-ce que tu veux qu'on te retrouve sur LinkedIn sur...
Oui, c'est le plus simple, je pense, hein, sur LinkedIn. Vous me contactez là-dessus, vous aurez tout mon parcours, et puis on pourra échanger, sans problème.
Super, vous allez voir, il est assez sympa.
Assez, j'essaye.
Bon, en tout cas, Vincent, cet épisode touche à sa fin. En tout cas, déjà, je voulais te remercier, un grand merci, parce que c'est quand même grâce à toi. J'ai passé un an avec toi tous les vendredis. C'est grâce à toi que j'ai mon diplôme. Donc, bah, franchement, merci beaucoup pour ton invitation. On avait des personnalités assez proches, donc ça a vachement bien marché pour le coup.
Ouais, ouais. Non, c'était très sympa. On s'est bien complété. Et c'est vrai que j'ai l'impression que dans quelques années, tu seras à ma place et que la relève est assurée. Et qu'on va se suivre, je pense, pendant un petit moment. Et puis, merci à toi pour cette expérience de podcast parce que c'est mon premier. Donc, tu vois, j'attendais de voir un petit peu comment ça se passait. Donc, c'était très sympa. Bonne nouvelle expérience. Merci bien.
Merci Vincent. Et cet épisode touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas d'ailleurs à noter la note que vous voulez sur Apple Podcast et toutes les autres plateformes de podcast. Je ne sais pas de quoi sera fait le prochain épisode, mais en attendant, n'oubliez pas, ce que vous plantez maintenant sera récolté plus tard.